Je vais très vite passer la parole à Louise Mailloux, qui est philosophe, essayiste, féministe et laïque. Elle est en particulier l'auteur de deux ouvrages portant sur la laïcité, « La laïcité, ça s'impose » et « Une charte pour la nation ». Elle a collaboré au Dictionnaire de la laïcité, que j'ai eu l'honneur de co-diriger, publié chez Armand Collin en 2011 et réédité en 2016. En 2009, elle a cofondé avec Jemila Benhabib le collectif citoyen pour l'égalité et la laïcité. Elle tient un blog et collabore à différents médias électroniques. En 2014, le mouvement laïque québécois lui a décerné le prix Condorcet de Saule. Elle est aujourd'hui poursuivie pour diffamation par une militante musulmane pro-voile et elle est en attente de son procès. Enfin, elle préside actuellement le comité de soutien de Jemila Benhabib au Québec. À vous la parole, Louise.
Merci, Martine. Alors, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, à entendre tout le monde cet après-midi, je constate que de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Nord, nous avons aussi sensiblement les mêmes problèmes, et je dirais de plus en plus. Mais nous avons une particularité, c'est que chez nous, au Québec et au Canada, il y a aussi le multiculturalisme qui s'oppose au républicanisme et qui nous rend la défense et le combat pour la laïcité et contre les islamistes. Ça nous rend la tâche difficile. Alors, je vais expliquer grosso modo, parce que la laïcité, ce sont des principes, mais les mêmes principes, comment on va les appliquer dans chacun des pays, ça varie avec l'histoire du pays. Alors, je vais vous parler un petit peu au Québec de comment nous avons, où nous en sommes rendus, comment nous avons cheminé vers la laïcité et en quoi, à partir donc de la question du voile et de la question donc de l'islam, les choses ont changé et se sont un petit peu fracturées et ont rendu le combat plus difficile. Alors, au Québec, nous n'avons à l'heure actuelle aucun texte officiel, aucune affirmation constitutionnelle de ce qu'est la laïcité, ce qui veut dire qu'on voudrait contester quelque chose au nom de la laïcité sur le plan juridique. Nous n'avons aucune prise, il n'y a aucune affirmation officielle non plus de la séparation de l'État et des religions. Et ça veut dire aussi que nous n'avons aucune règle ou disposition législative dans les institutions d'État pour gérer le religieux. C'est un bar ouvert, autrement dit, tout à l'heure actuelle est permis. Notre premier ministre canadien s'en vante, nous sommes un pays très ouvert, très tolérant, un modèle à l'échelle internationale. Bon. Mais il y a quand même, au Québec, nous avons une histoire de la laïcité, il y a quand même une laïcité de fait. Alors, rapidement, pour mettre les choses en perspective, avant les années 1960, donc avant ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, il y avait une collusion entre le clergé catholique et l'État. Donc, et ça veut dire que le clergé catholique contrôlait les hôpitaux, contrôlait tout le secteur de l'éducation, que ce soit les écoles publiques, les collèges classiques, comme ils étaient sur les conseils d'administration des universités, et bien évidemment, ils décidaient du contenu du cursus pédagogique à tous les niveaux, et on se doute bien de ce que ça veut dire. Il va falloir attendre, par exemple, 1968 dans les universités pour qu'on puisse enseigner Jean-Paul Sartre en philosophie, parce qu'il était athée. Alors, donc, il y a aussi, ils contrôlent la culture, ils exercent une censure. Vous avez des artistes québécois qui se sont, entre autres, exilés en France, des peintres, des littéraires, des chansonniers, pour pouvoir développer un peu et créer sans être trop inquiétés. Et ils contrôlaient, bien évidemment, l'éducation, c'est-à-dire les écoles publiques. Bon, alors, il y a eu un processus avec la Révolution tranquille. L'État s'est affirmé de plus en plus dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la culture. Alors, ça a donné donc un vent de laïcisation. Les médecins et les infirmières ont remplacé les religieux et les religieuses dans les religieuses dans les hôpitaux. On a remplacé, on a fermé les collèges classiques. On a ouvert, qui était une pépinière pour les futurs prêtres. On a remplacé ça par des collèges laïcs. On a laïcisé les universités et c'est à ce moment-là donc qu'on a pu enseigner, par exemple, Jean-Paul Sartre. On a, en quelque sorte, laïcisé la culture également et ça le fait que on a commencé à enseigner les sciences humaines dans les universités, la psychologie, l'économie, l'anthropologie, l'ethnologie, bon bref, davantage de sciences humaines et beaucoup moins de théologie. C'est ce que ça voulait dire ici. Par contre, à cette révolution tranquille-là qui a amené un vent de laïcisation et qui a permis aussi pour les femmes, par après, on a changé les mentalités. Il y a eu en 1969 la décriminalisation des contraceptifs, alors qu'avant, c'était interdit pour un médecin de prescrire des contraceptifs à une femme. Il y a eu en 1988 un gain au niveau de l'avortement, de l'IVG. Alors, on a pu obtenir ça. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que de plus en plus, l'identité des Québécois s'est définie non plus à partir du catholicisme, mais à partir de la langue. Alors même ça, je veux dire, a connu en quelque sorte une laïcisation, c'est-à-dire le référent principal de notre identité. Mais l'échec de la Révolution tranquille sur le plan de la laïcité, c'est que nous n'avons pas réussi à déconfessionnaliser les écoles publiques, c'est-à-dire primaires et secondaires. Donc, les écoles étaient encore soit catholiques ou protestantes, et bien évidemment, on y donnait un enseignement religieux, soit catholique ou protestant. Alors, ça veut dire que le mouvement pour la laïcisation au Québec, parce que ça existe, le mouvement s'est concentré, a mis le focus, si vous voulez, sur la laïcité scolaire. Et le but, c'était de déconfessionnaliser les écoles publiques. À ce moment-là, les forces en présence, le Québec était divisé en quelque sorte en deux. Vous aviez d'un côté ceux qui étaient en faveur de la laïcisation, vous aviez la gauche qui était unie, vous aviez les féministes qui étaient unis, vous aviez les syndicats qui étaient des leaders et qui ont été à l'avant-garde, je pense par exemple à la Fédération des travailleurs du Québec, pour exiger la déconfessionnalisation des écoles. Bref, tous les progressistes étaient dans le même camp. Contre, si vous voulez, en phase 2, il y avait ce qu'on appelait la majorité historique, ceux qui considéraient qu'on devrait continuer à donner un enseignement religieux puisque c'est notre identité, c'est notre histoire. Bon, bref, nous avons gagné. Alors, on a pu, en quelque sorte, en 2005, c'est relativement récent, ça va faire 12 ans, qu'on a mis fin à l'enseignement religieux dans les écoles publiques. En 2006, le kirpan, le poignard rituel des Sikhs, a été autorisé dans les écoles. Ça a été très mal reçu par la population en général. Il y a donc eu, en 2007, ce qu'on a appelé la crise des accommodements raisonnables. Parce que ce que les gens avaient compris, c'est ça, nous, il faut décrocher nos crucifix des écoles et on laisse tranquillement entrer les religions minoritaires. Et évidemment, le voile était aussi permis. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a pu entrer le kirpan? Alors là, je vous amène dans quelque chose d'un peut-être un petit peu compliqué, mais il faut passer par là. La question des chartes. Alors, en 1982, Trudeau père, le père de l'actuel premier ministre, il a rapatrié la Constitution canadienne à Ottawa en disant « on va négocier de nouveaux accords constitutionnels, on va donner davantage de pouvoir à la province de Québec, qui voulait davantage de pouvoir. » Et il ne faut pas perdre de vue que 2 ans avant, nous avions eu un premier référendum concernant la question de l'indépendance. Donc, Trudeau voulant empêcher que la chose se reproduise, il rapatrie la Constitution et il insère dans cette Constitution la Charte canadienne des droits et libertés, qui a donc une valeur constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parlement provincial dans toutes les provinces canadiennes qui peut adopter une loi qui irait à l'encontre de cette fameuse charte canadienne. En clair, ça veut dire que, avec la judiciarisation du politique, on a limité les pouvoirs politiques de chaque province pour instaurer finalement un gouvernement des juges. Et même si le Québec, aucun premier ministre québécois n'a accepté depuis 82 de signer ce rapatriement de la Constitution, n'a accepté donc de signer la Constitution, nous ne la reconnaissons toujours pas. Mais comme nous ne sommes qu'une province et malheureusement pas un pays, nous devons respecter en quelque sorte la Constitution et la Charte canadienne. Bon, alors, le Kirpan, je reviens au Kirpan en 2006. Dans la Charte canadienne, il y a un article qui dit « On ne peut pas faire de discrimination, discriminer une personne en fonction de son origine, de son sexe, de son orientation sexuelle, si elle a un handicap, et de sa religion. » Alors, cet article-là, c'est l'article bonbon pour tous ceux qui veulent combattre la laïcité et redonner, en quelque sorte, aux religieux une légitimité et une visibilité dans nos institutions publiques. Alors, l'affaire du Kirpan, on est dans une école au Québec, le directeur de l'école dit à l'élève, tu ne peux pas venir fréquenter l'école avec un poignard. Et évidemment, les parents, on suppose que des intégristes se sont approchés des parents. Les parents sont allés devant les tribunaux, ils ont invoqué le fameux article dont je vous parlais, de la Charte canadienne qui interdit donc la discrimination. Et donc, ça va devant les tribunaux, l'école gagne. Alors, les parents décident de faire appel, ce qui est le plus haut tribunal de la province de Québec. Ils font appel et, à leur tour, ils gagnent. Est-ce que c'est ça qui s'est passé ou l'inverse? Enfin, ça s'est retrouvé en Cour suprême et les juges de la Cour suprême ont donné raison au SIC en disant que, pour un motif religieux, on est en train de priver cet enfant-là de son droit à l'éducation, qui est un droit fondamental. Et c'est ainsi que le Kirpan est entré dans nos écoles. Évidemment, c'est un droit individuel qui n'est accordé qu'à une seule personne. Mais en même temps, c'est élargi à toute la communauté. Quel directeur d'école va à nouveau entreprendre une bataille pour se rendre jusqu'en Cour suprême et se faire dire qu'il y a un jugement de 2006 qui fait jurisprudence, etc. Donc, autrement dit, la chose est réglée. Le Kirpan peut entrer dans les écoles. Alors, l'idée, c'est que tout est permis. Je vais vous donner des exemples très, très concrets. Il y a des policières à Toronto qui portent le voile. On a des agents de la GRC, de la Gendarmerie royale, de la police fédérale, qui portent le turban sikh. On a même notre ministre actuel de la Défense qui porte le turban.
Louise, il va falloir se limiter à un seul exemple et après on lancera le débat. Okay, je suis désolée. D'accord.
Alors, au Québec, finalement, on en arrive à vouloir légiférer. Et il y a eu aussi, en 2009, la question du voile qui a fracturé le mouvement féministe, qui est toujours divisé depuis. Et donc, il y a un gouvernement, le Parti québécois, qui, en 2013, décide de présenter un projet de loi. Et c'est un projet de loi dans lequel il va y avoir, entre autres, l'interdiction, on propose l'interdiction de signes religieux ostentatoires pour les employés de l'État. Il y a d'autres propositions aussi, que les services publics soient donnés et reçus à visage découvert. Ici, ça veut dire pas de niqab, on ne travaille pas et on ne reçoit pas de services avec le voile intégral. Bon, mais la proposition qui a été controversée et qui a déclenché toute une tempête, c'est évidemment celle sur l'interdiction donc de signes religieux. Alors là, les gens qui étaient en faveur de la laïcité par rapport aux catholiques, tout à coup, je veux dire, on s'est retrouvés avec des féministes qui défendaient une laïcité multiculturaliste. qui traitaient les militants laïcs de racistes. On s'est retrouvés avec des syndicats qui sont devenus très, très frileux sur cette question-là. Et on s'est retrouvés aussi avec une gauche qui est toujours divisée sur cette question, pour les mêmes raisons qu'ici en France ou dans d'autres pays d'Europe. Alors, 2014, pas longtemps après, on va en élection, le Parti québécois va en élection, c'était un gouvernement minoritaire, il espérait avoir une majorité pour être à l'aise, pour pouvoir légiférer. On va en élection, Jamila et moi, on se présente comme candidate pour le Parti québécois. On défend cette fameuse charte des valeurs qui était en fait une charte de la laïcité. Et notre parti va connaître, pour d'autres raisons que je ne développerai pas ici, une défaite cuisante aux élections. Et du 7 avril, et moi, trois semaines après, je reçois une poursuite en diffamation d'une jeune musulmane qui a été, durant tout ce débat qui a duré plusieurs mois, elle a été la Jeanne d'Arc du voile au Québec, la porte-étendard, l'égérie du voile, elle était de toutes les tribunes. Alors voilà. Donc, les militants laïcs ont été ciblés et de toute évidence, ce qu'on voulait, c'est écarter les gens, neutraliser les adversaires politiques, faire la promotion de la censure, judiciariser le débat public sur la laïcité et pour éviter qu'un nouveau projet de loi semblable à celui de 2013 refasse surface. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les Québécois, contrairement aux Canadiens anglais, nous sommes profondément républicains. L'État, pour nous, c'est quelque chose d'important. Nous sommes une minorité en Amérique du Nord et l'État a toujours été un levier important pour défendre nos droits collectifs, dont, par exemple, la langue. Alors, nous sommes républicains de cœur, alors que quand on sort du Québec et qu'on va au Canada anglais, on est un peu comme dans un autre pays. Et là, c'est la mentalité, donc, anglo-saxonne. Mais c'est une mentalité qui, de plus en plus, est présente au Québec, dans les milieux universitaires, dans les médias. Et nous avons donc à faire face à ça. Alors, l'opposition à la Charte des valeurs aussi, évidemment, il y a eu donc beaucoup de féministes multiculturalistes, il y a eu des fédéralistes, il y a eu des islamistes et il y a eu aussi ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle l'interreligieux, c'est-à-dire il y a eu une solidarité entre tous les cultes, les juifs, les catholiques et les musulmans pour torpiller ce projet de charte-là. Alors, moi qui avais parlé, qui avais dénoncé le financement des écoles privées confessionnelles, qui avait parlé, par exemple, du kasher et du halal, qui avait parlé de la question du voile, alors j'ai été traitée de radicale, de raciste, de xénophobe, d'antisémite. Moi aussi, j'ai fait la couverture du Times d'Israël, Al Jazeera. Bon, alors j'ai toutes les qualités, bref. Et donc, c'est un djihad juridique, finalement, qui s'est enclenché. Mais on a trouvé que ce n'était pas suffisant. Alors, le gouvernement, on a perdu, le Parti québécois a perdu les élections. C'est un gouvernement fédéraliste au Québec là, qui a pris le pouvoir, le Parti libéral du Québec. Et ils ont présenté en juin 2015 un projet de loi, le projet de loi 59, qui était finalement un projet de loi qui permettait à quelqu'un qui avait la prétention de vouloir légiférer, empêcher les discours prétendument haineux. Mais dans le fond, c'est un projet de loi qui était là pour limiter la liberté d'expression, particulièrement celle où l'on critique les religions et particulièrement donc l'islam. Alors, dans ce projet de loi-là, si vous voulez, les éléments importants, quelqu'un pouvait faire une plainte, la plainte était anonyme et sans frais pour le plaignant. Alors déjà là, donc on facilitait l'accès à des poursuites abusives. On pouvait aussi, une fois qu'on enquêtait sur un site ou sur quelqu'un, il y avait interdit donc de continuer à diffuser ou à diffuser donc publiquement. Et on avait même pensé à une liste des personnes qui seraient condamnées parce que l'intention c'était de les amener devant la justice et de leur coller des amendes et une liste noire donc des personnes qui auraient été condamnées par le tribunal des droits de la personne. Il y a eu heureusement une mobilisation à bien des niveaux dans le milieu LGBT, même au niveau du barreau, les avocats. chez les des professeurs, surtout les journalistes, au niveau de la population, les militants laïcs, bref, beaucoup d'opposition à ce projet de loi-là.
Il faudrait conclure.
Alors, donc, rapidement, le projet de loi a été abandonné, mais on est revenu avec des motions. On a fait voter par la classe politique, les élus, une motion sur l'islamophobie. On a déposé des pétitions, fait voter des motions. On le fait au provincial, on le fait au fédéral. Ces motions-là ont été votées. Et ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une reconnaissance de la classe politique de l'islamophobie et que ce soit reconnu comme étant quelque chose de systémique, c'est-à-dire un racisme profond dans la société à la fois québécoise et canadienne, et donc que les politiciens, la classe politique, adoptent des orientations au niveau social, au niveau politique, etc., pour essayer de limiter, de contrer en quelque sorte l'islamophobie. On a même eu à l'automne dernier, puisqu'on a reçu beaucoup de réfugiés syriens, le gouvernement fédéral qui a distribué dans les écoles publiques des guides contre l'islamophobie pour éduquer en quelque sorte les jeunes Canadiens. Alors, grosso modo, ça va mal. C'est très difficile. Et ce qu'on réalise, c'est qu'aujourd'hui, non seulement la laïcité régresse, chez nous aussi, mais que pour défendre la laïcité, il y a maintenant un préalable, et c'est celui de défendre la liberté d'expression. Et je terminerai rapidement en disant que je considère qu'à l'heure actuelle, la principale limite à la liberté d'expression, c'est l'islamisme. Merci.